Ndekeluka. Trésor sur Radio Ndekeluka, le journal de la mi-journée avec Astrid de Bonheur Kolingi. Astrid, bonjour.
Bonjour Nina Verdian Niaboudé, bonjour à tous. Les activités administratives et commerciales ont repris à Rafai dans le Mbomou après la journée de jeûne et de prière observée hier par les habitants. La région enregistre ces derniers temps de nombreux cas d'exaction des groupes rebelles. L'avant-projet de loi portant fonctionnement et organisation de la chefferie traditionnelle est soumis depuis hier à la validation des acteurs ciblés. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra. Plusieurs acteurs électoraux centrafricains ont été informés hier sur le contenu du code électoral, une initiative du gouvernement en prélude aux élections locales du 13 juillet prochain. Football à l'international, le Ballon d'Or 2024 est décerné à Rodrigo Hernandez Cascante, dit Rodri.
À la une de ce journal, la ville de Rafai, située à 889 km de Bangui, reprend son cours normal au lendemain d'une journée de suspension des activités.
C'était une décision des autorités locales afin de permettre aux habitants de jeûner et de prier par rapport au regain de l'insécurité dans cette sous-préfecture. Ces derniers temps, des tueries, enlèvements et braquages attribués aux rebelles de l'UPC sont enregistrés aux alentours de Rafai, surtout sur l'axe d'Embia. Timothée Simakoto, vice-président du conseil local de la jeunesse, confirme la reprise des activités tout en lançant un appel au gouvernement. Il a été contacté par Parfait Teddy Comessé.
L'éducation au niveau du marché, les carrossiers, ils sont en marche. Présentement, les élèves sont à l'école. Parce qu'hier, la journée était paralysée. On avait organisé cette prière par rapport aux présences de l'UPC dans les localités de sous-préfecture de Rafai. Il y a des braquages qui passent souvent sur l'axe de Rafai d'Imbia. Ça fait aujourd'hui presque 3 semaines que l'UPC avait tué un jeune garçon qui avait quitté de Dembia pour venir ici à Rafai. Par exemple, les chasseurs ne peuvent pas aller à la bourse pour chercher de quoi venir nourrir leurs enfants. Même les gens qui travaillent au chantier, qui se trouvent à 45 km de Dembia, ils ont tous sorti au niveau de Dembia. Toutes les populations de Karmada sont sorties toujours au niveau de Dembia. Nous prions au gouvernement pour qu'il puisse augmenter les effectifs de militaires qu'on peut dispatcher d'autres à Selim, à Goumara, Yerekindo et à Dembia. Nous avons des risques parce que les actes de Dembia sont impraticables par rapport aux plans de l'UPC.
Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a ouvert hier à Bangui les travaux d'amendement et de validation de l'avant-projet de loi portant fonctionnement de la chefferie traditionnelle.
La chambre de chefferie traditionnelle est une nouvelle institution inscrite dans la Constitution du 30 août 2023. Armando Yangendi nous fait le point.
Cet avant-projet de loi de 16 pages définit l'organisation de la Chambre nationale de la chefferie traditionnelle. Il comprend une assemblée plénière, un bureau exécutif et des chambres régionales des chefs traditionnels. Le bureau exécutif est dirigé par un président assisté de ses dévices, un rapporteur général et son adjoint. Faustin Archange Touadéra, président de la République, dévoile ici quelques missions assignées à la Chambre de la chefferie traditionnelle centrafricaine.
La chefferie traditionnelle participe dans les conditions déterminées par la loi, aux efforts de développement harmonieux de toutes les régions de la République. Elle est chargée notamment de la valorisation des us et coutumes, de la promotion des idéaux de paix, du développement et de la cohésion sociale et du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.
Cet avant-projet de loi a bénéficié de l'appui technique et financier de l'ONU Femmes. Novella Rukwigize, chef de programme de cette agence des Nations Unies, revient ici sur l'appui de son institution gouvernement dans ce programme.
Nous sommes convaincus que la validation de l'avant-projet de loi et les étapes qui vont suivre appuieront ces efforts en République centrafricaine où le rôle des chefs traditionnels peut permettre d'endiguer bien des défis tels que les violences sexuelles et basées sur le genre qui gardent une ampleur pandémique malgré les efforts menés par le gouvernement et ses partenaires pour y faire face. Ce projet de loi intègre également les principes des droits humains, en particulier ceux des femmes, pour lutter efficacement contre toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles.
Après la validation ce mercredi par le gouverneur, préfet, chef de groupe et chef traditionnel, ce document sera soumis à l'appréciation du Parlement centrafricain avant la promulgation par le président de la République.
Une célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral, une crise liée aux maladies cardiovasculaires.
Verdian, le thème de cette année est « Agir vite pour le cerveau ». Les accidents vasculaires cérébraux AVC font des morts et causent aussi de nombreuses hospitalisations en RCA. Le professeur Pascal Mbélesso, chef de service de neurologie au Centre hospitalier universitaire sino-centrafricain de l'amitié de Bangui, montre les causes et les modes de prévention de cette maladie. Il est interrogé par Nathan de Saint-Stéphane Ngombe.
Les éléments qui causent le plus souvent cet accident vasculaire cérébral, c'est surtout l'hypertension artérielle. Et nous avons le diabète, la consommation abusive d'alcool, la consommation également des huiles qui sont très lourdes. Il y a également l'âge, malheureusement, qui est un facteur qu'on ne peut pas jouer dessus. Également, certaines maladies cardiaques qui peuvent être à l'origine. Pour éviter de pouvoir développer un accident vasculaire cérébral, c'est de contrôler régulièrement sa tension artérielle, éviter les éléments qui font augmenter la tension artérielle, c'est-à-dire le fait de consommer du tabac, des boissons alcoolisées, des graisses lourdes, ça il faut l'éviter, et faire régulièrement du sport, c'est très important, et également ne pas hésiter à faire des contrôles au moins une fois l'année afin de voir s'il n'y a rien de particulier qui puisse donc exposer à l'hypertension artérielle. Manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, ça ce sont des éléments qui peuvent donc nous aider à prévenir donc de façon primaire l'accident vasculaire cérébral.
Santé toujours, le ministre de la Santé Pierre Somsé alerte sur une mauvaise gestion des moyens roulants devant servir aux activités de santé dans les villes de province.
Selon lui, les autorités locales exercent un abus sur l'usage des ambulances et autres moyens, privant ainsi les bénéficiaires. Il demande aux responsables des structures sanitaires et locales concernées d'en faire bon usage et promet des mesures irrelatives. Écoutons-le au micro de nos confrères de la Radio Nationale.
Il nous parvient de façon persistante des préoccupations exprimées par la population concernant l'utilisation abusive des ambulances par nos responsables sanitaires. Ces ambulances tendent à servir au détriment de leur fonction prioritaire qui est l'évacuation des malades. Ces ambulances sont des moyens de transport des responsables sanitaires à Bangui où elles restent plusieurs jours, voire des semaines. Et localement, ces ambulances sont utilisées pour les déplacements entre les localités à l'intérieur des provinces. Elles ne sont pas justifiées pour l'utilisation des ambulances. Et d'attirer l'attention de mes collègues qui sont sur le terrain de ce comportement qui ne servent pas aux buts premiers qui leur sont assignés. Cet appel s'adresse également aux autorités locales, aux préfets, aux gouverneurs, aux sous-préfets, aux maires, qui laissent libre cours à ces pratiques, dont certains délivrent des ordres de mission qui permettent d'utiliser abusivement ces ambulances. Certains se sont rendus coupables d'abus en les réquisitionnant dans leur propre intérêt. Dans certains cas, ces ambulances ont fait des accidents. Je les exhorte à mettre fin.
Vous écoutez le journal de Radio Ndekeluka en prélude aux élections locales du 13 juillet prochain. Des acteurs électoraux centrafricains ont été informés hier sur le contenu du code électoral.
Il s'agit entre autres des représentants des partis politiques, des leaders des organisations de la société civile et des autorités locales. L'implication et la participation des femmes au processus ainsi que les critères d'éligibilité ont aussi fait l'objet des échanges. Une initiative du ministère de l'Administration du territoire, Clotaire Loutomo, directeur général du développement local au 10 ministères, revient sur l'importance de cette activité. Il est au micro de Eda Lotin Diko.
Aujourd'hui, le ministère de l'administration territoriale dispose d'un document de politique sur la décentralisation et le développement territorial. Ce document de politique est remis officiellement au président de la République. Il ne reste qu'à mobiliser les ressources. Alors, si déjà le cadre juridique en ce qui concerne la décentralisation existe, mais l'épine dorsale même de ce document, c'est l'organisation des élections municipales. Aujourd'hui, le gouvernement s'engage à mettre un terme aux délégations spéciales qui ne disposent pas de légitimité. Et donc, lorsqu'on va organiser les élections municipales, c'est une opportunité qui sera offerte à la population de choisir ses représentants en vue de bien gérer ses patrimoines. Et donc, c'est des opportunités, c'est des pouvoirs et compétences que l'État aujourd'hui a transféré à ses collectivités territoriales. Mais pour la mise en œuvre de tout ce que je viens de dire, il faut organiser les élections municipales pour permettre à la population d'élire au mieux ses représentants. Et d'où nécessité de vulgariser le contenu du code électoral et de mieux sensibiliser ces acteurs-là sur les enjeux et les défis pour une meilleure organisation des élections municipales et régionales à venir.
Le gouvernement annonce la célébration différée de la journée mondiale de l'alimentation à Kagabandoro dans la Nana Gribizi.
Selon son porte-parole Maxime Balalou, ces festivités auront lieu avant le 15 novembre. Une mission de prospection pour les préparatifs a été faite la semaine dernière. Il l'a dit hier lors de la conférence de presse hebdomadaire qu'il a animée. Maxime Balalou est au micro de Chris Roy Jordan Badengbe.
Vous savez, la pluie a beaucoup perturbé le programme. Il faut que je vous le dise. Ce qui est la base des décalages, c'est la pluie. Et surtout les infrastructures et autres qui sont en train d'être reconstruites et autres. Les routes également, la pluie. Mais les choses avancent très bien. Il y a une mission qui est envoyée par le gouvernement. Il y a 3 ministres qui sont sur le terrain. Mais notre souhait, c'est quoi? Notre souhait, c'est que l'Ajima se tienne. Parce que Kagabandoro est une ville martyre. Je vous ai dit qu'il y a 3 ministres qui sont arrivés. C'est hier soir. Ils sont allés vérifier, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait. Et puis, ils vont nous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la première quinzaine de novembre, là, ça c'est certain, l'Ajima sera organisée.
C'était le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée le 16 octobre de chaque année.
Actualité internationale. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont pris depuis hier le contrôle d'une localité dans la province du Nord Kivu.
D'après des sources locales, ces rebelles ont pris le contrôle du village Petit dans le territoire de Walikale, à plus de 180 km de Goma. Cette occupation a entraîné le déplacement de plusieurs habitants. Ils craignent la prise de contrôle des autres localités, surtout de Pinga, où se trouvent plusieurs déplacés. La population appelle le gouvernement congolais à une réaction plus appropriée.
Le fils de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka sollicite Macron sur la disparition de son père.
C'était il y a exactement 59 ans. C'est à l'occasion de cet anniversaire et profitant de la visite du président français au Maroc que Bachir Ben Barka demande aux deux chefs d'État d'agir pour lever les ondes d'ombre qui planent encore sur la disparition de son père. Dans sa lettre ouverte, il leur demande d'agir pour élucider la disparition de son père, de lever le secret défense côté français et d'exécuter les commissions rogatoires internationales côté marocain.
La page sport de cette édition Astrid démarrant avec du football à l'international. Le Ballon d'Or 2024 est décerné à Rodrigo Hernandez Cascante, dit Rodri.
Verdiane, la remise de ce prestigieux trophée a eu lieu hier à Paris en France. L'Espagnol de 28 ans au milieu du terrain de Manchester City succède ainsi à l'Argentin Lionel Messi. Rodri, meilleur joueur de l'Euro 2024 et champion d'Angleterre, dévance au classement de Vinicius Junior, Jude Bellingham et Dani Carvajal, tous deux de Real Madrid. Mais le Ballon d'Or décerné à Rodri a suscité des vives critiques chez plusieurs internautes. Pour ces derniers, Vinicius Junior méritait ce sacre. D'ailleurs, son club a boycotté l'événement puisqu'aucun représentant de Real Madrid n'était présent à la cérémonie d'hier, même si le coach du club Carlo Ancelotti est élu meilleur entraîneur de l'année. L'Argentin Emiliano Martinez du club Aston Villa, déjà sacré en 2023, conserve le trophée de Yacine du meilleur gardien. Âgé de 17 ans, Lamine Yamal du FC Barcelone remporte le trophée du meilleur jeune joueur. Chez les dames, l'Espagnol Aitana Buonmatí du FC Barcelone remporte pour la deuxième année consécutive le Ballon d'Or féminin 2024.
En judo, le club Mayonga du 8e arrondissement de Bangui a célébré hier la journée mondiale du judo autour du thème le bien-être.
Cet événement a réuni judoka et passionnés autour des valeurs de ce sport. Retour sur cette célébration avec Claire Suzanne Denga.
Cette journée a été marquée par une marche sportive réunissant des participants de tout âge. Des démonstrations sur les différentes techniques illustrant la maîtrise du judo ont aussi été présentées par les judokas. Ces performances ont captivé le public et souligné l'importance du respect des valeurs fondamentales de cette discipline. Et Jim Betiolo, un des spectateurs.
Le judo n'a pas de brigand pour apprendre à un élève qui va à l'école. L'exemple de l'EPS pour éviter les mal de dos et puis pour sentir à l'aise. Ça m'a plu, ça m'aide aussi.
En plus des activités sportives, des thèmes tels que la confiance en soi, la gestion du stress et les bienfaits du judo sur la santé ont été également débattus. Mirabel Ngbenge est l'une des judokates.
Quand j'étais encore petite, j'ai commencé le judo depuis j'étais encore l'âge de 12 ans. On fait seulement l'étirement avec le chute kata et puis roulade.
Emery Nguyombo, premier vice-président du club Mayonga, parle du bien fondé de cette activité.
Lorsque vous faites le judo, ça vous est dû éduquent comment se comporter, comment se parler et comment faire pour que les choses puissent aller de l'avant et voir les perspectives de l'avenir. Pour cette festivité, nous n'avons eu aucun appui. Monsieur Zako Patrick qui nous a prêté main forte pour que cette festivité puisse voir le jour.
Selon les organisateurs, une compétition interclub est prévue le 9 novembre prochain au Racing Club de Fatima.
Basketball, Rod to Ball, le club Abeille a joué son deuxième match hier.
Après sa mauvaise entrée dans ce tournoi, le club Abeille champion de la RCA a battu hier Moanda du Gabon 75-71. Aujourd'hui à 19h pour son troisième match, Abeille va jouer contre King Africa de la Guinée équatoriale. Et la page sport met un terme à ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi, mais ne quittez pas car la version s'engouffre tout de suite.